Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter vous, déjà?
Moi,
de manière très rapide, juste pour la...
Très limpide.
Très rapide.
Ah, rapide,
et
en
limpide,
plus.
Limpide, alors
limpide
c'est
rapide,
encore mieux.
Ça va être encore plus difficile.
Mais rapide, c'est-à-dire de...
Non,
Je
sais pas, parce que on me dit technicien, mais je ne le suis pas. On me dit réalisateur, ouais, peut-être, pourquoi pas, ouais, c'est ça, réalisateur. Parce que j'ai fait une école de cinéma, et puis que j'ai un diplôme de réalisateur, mais je n'ai pas fait que ça. Avant, j'étais technicien de théâtre, éclairagiste, régisseur. Et j'ai aussi fait du dessin d'architecture, j'ai fait un peu d'école d'ingénieur, enfin, voilà, j'ai fait de la photo, je suis papa. Donc voilà, c'est pas... Mais réalisateur, ce qui est bien, c'est que ça dit réel, réaliser, créer quelque chose, essayer de rendre réel une idée. Et c'est ce que je fais, voilà. Que ce soit un film ou que je réalise une affiche ou un studio de cinéma, un équipement, un scénario maintenant, j'ai écrit pour moi, un film, un système 3D, un truc, voilà, je réalise. Voilà, au sens large. Si je peux dire. Et je viens de Neuchâtel.
Ah, vous venez de Neuchâtel, ouais. D'accord. Quoi? Alors, pourquoi Lausanne?
L'école cinéma était là et pendant une année j'ai résisté, je rentrais à Neuchâtel tout le temps. Et puis finalement j'ai immigré ici et je me sens. En fait, ce qui est très bien, c'est d'être ailleurs, c'est pas d'être dans l'endroit où on est né. Donc on a une distance, c'est pas mal ça. C'est pas mon lac. Mon lac, c'est celui de Neuchâtel.
Mais il y a quand même un lac.
Il y a un lac qui est intéressant. Là, j'écris quelque chose qui se passera là-dessus. Mais c'est un lac que je découvre. C'est un autre. C'est comme... J'aime bien la découverte, de toute façon. J'aime bien explorer. Ouais. Difficile à faire deux fois la même chose, par contre.
Et alors, vous écrivez quelque chose sur le lac? Sur ce lac?
Oui, j'écris un... Enfin, c'est mes matinées, je les passe à ça en ce moment, un peu dans une pression pour un film de cinéma qui se déroulerait dans le cadre, donc un film de fiction, un petit court-métrage, un petit long-métrage, 70 minutes comme ça, qui aurait comme cadre une course de voile qui se fait sur le lac, qui dure 5 jours, une course d'endurance. Et 5 jours, 5 nuits, 5 aubes, 5 crépuscules, 5 zéniths, 5 obscurités, 5 tout ça. Et 5 tours donc d'ici, partie citadine de Genève, de revenir sur les côtés minérales des montagnes, voilà, pendant 5 jours. Sur un petit bateau, une histoire de couple.
C'est une course qui n'existe pas?
C'est une course qui existe.
Qui existe.
Ah, ouais, en juillet, ça se passe, 5 jours du Léman.
D'accord.
Et c'est vraiment une course où les gens se... Ce qui est intéressant, c'est que c'est au milieu du monde, le lac. On ne peut pas ne pas le mettre au milieu du monde. Il y a le monde, il est autour, affichant sa présence tout le temps, qu'il soit géologique ou la civilisation, elle est là. Mais on peut s'échapper du monde à l'intérieur de ce monde-là. Quoi. Tous ceux qui l'ont fait, en tout cas, me parlent. Et ce que j'en ai vu un petit peu, et ce que je vais essayer d'approfondir, ils s'échappent du monde alors qu'ils sont à 10 mètres du monde ou à 15 mètres du monde. Le monde est autour, au-dessus, dans les avions, dans les bateaux de la compagnie de navigation, etc. Mais ils s'échappent, ils redeviennent... c'est un peu la place où le métabolisme animal reprend sa place.
Ils dorment dans le bateau. Enfin,
oui, c'est ça, c'est une course. Ouais, c'est on ne doit pas mettre le pied à terre pendant 5 jours. C'est comme une croisière en solide, enfin c'est à deux là du coup, mais et puis c'est intéressant parce que c'est un huis clos, il y a le bateau est une petite bulle en soi, c'est un bateau qui fait 7,50 m, donc c'est un petit truc, c'est comme un cocon, une cellule ou une capsule ou un truc, et il y a donc un intérieur très, très intérieur et un extérieur très ouvert. Rien que pour le son, déjà ça me titille énormément, pour l'image alors j'en parle pas, voilà, et puis c'est l'histoire de... Ouais, d'un personnage qui retrouve sa personne. Mais je ne suis pas très bon pour les pitchs, d'ailleurs. Je pense qu'il y a une très belle édition, peut-être vous la connaissez, des Cahiers du cinéma qui était l'année dernière sur le nom manuel, l'anti-manuel de scénario. Et c'est vrai que les films qu'on peut pitcher, c'est les films qui font pchit. Voilà.
Et par exemple, alors pour embrayer... sur la question un peu technique, quand on pense à un projet comme ça, vous venez de dire que par rapport au son ou à l'image, c'est très excitant, il y a plein de perspectives. Ouais. Est-ce que l'idée, enfin, dans quel ordre ça vient. J'imagine ça ne peut pas se résumer comme ça, c'est toujours très imbriqué, mais est-ce qu'il y a des idées techniques qui apparaissent directement avec l'idée?
Moi je ne suis pas technicien, donc j'ai pas de problème avec la technique. Donc la technique n'est pas un problème. Mais du coup, c'est vrai que j'aime jouer. J'avais des Lego. Mon fils a des Lego. Enfin bon, bref, on joue aux Lego. Et donc, j'ai pas de problème avec ça. Et du coup, là, c'est vrai que je pense à des focales. Et j'ai acheté un appareil photo un peu plus récent que celui que j'ai utilisé sur Film Socialiste. Enfin, il est découvert sur Film Socialiste et sur Radio Langage, qui est extrêmement sensible. J'ai travaillé avec un autre metteur en scène qui s'appelle Pippo Del Bono. Plutôt acteur et metteur en scène de théâtre italien, et j'ai essayé des trucs avec cette caméra l'été dernier. Donc on est en train de terminer un film ensemble, je fais un peu l'image, le son, le montage, enfin bon, et on a filmé quelque chose sur, par hasard on s'est retrouvé avec lui et un Afghan, un immigré afghan, sur un petit lac au milieu de la Toscane, et on arrivait trop tard, on devait faire des images en interview sur ce lac. Mais évidemment, Pippo Del Bono, il prend du temps, on est parti 4 heures en retard, voilà. On arrive, le jour tombe complètement, et il y a la lune qui se lève. Bon, je dis, on essaye. Et cet appareil photo est génial, c'est qu'il a une capacité, une sensibilité incroyable. Ce qui fait qu'on peut tourner des choses sous la pleine lune, j'avais même trop de lumière sous la pleine lune. Donc voilà, donc moi, là, je pense à mon film, j'ai décidé il n'y a pas très longtemps de le faire dans le cadre de cette course de voile. Du coup, évidemment, je pense aux nuits. Du coup, j'écris des choses de nuit. Et je sais que c'est faisable, que je peux considérer la lumière des étoiles presque comme étant la lumière de l'espace, ou en tout cas la lumière qu'il y a autour. Enfin voilà. Donc je pense à cette possibilité-là. Mais comme un outil, vous voyez, un peu comme un pigment, un machin. Pareil pour les focales. Là, j'ai envie d'essayer différentes focales. Donc, c'est-à-dire un monde large. Vu qu'on est dans un intérieur assez étroit, je me dis c'est des essais, quoi. Je suis allé dans ce bateau, je me dis c'est peut-être intéressant de travailler avec des focales larges à un moment donné. J'ai envie de faire un truc sur les focales courtes. Enfin voilà, je sais pas, c'est normal parce que c'est ce que je fais avec mes mains, donc évidemment j'y pense. Le son aussi, j'y pense.
Du coup, avec une manière différente d'enregistrer l'intérieur et l'extérieur.
Oui, alors la prise de son c'est une chose, mais surtout le mixage ou l'espacement sonore plus que le mixage, c'est-à-dire j'adore essayer des trucs. Alors c'est pas mal parce qu'il y a 2 ans j'ai fait toujours sur le lac, il y a 3 ans maintenant, on m'a demandé de faire un montage, c'est via la cinémathèque d'ailleurs, si vous pouvez le garder, en tout cas ne pas enlever ça, de remercier chaleureusement Frédéric Maire qui m'a donné des trucs qui ont chaque fois j'ai réussi à faire quelque chose avec, que ce soit rencontré Silvio Soldini qui m'a fait rencontrer Godard, bref, il m'a proposé il y a 3 ans de faire un montage d'extraits de films qui avaient le lac comme sujet, ou qui avaient trait au lac, il y a le lac qui était présent, donc le lac Léman, le lac des Vaudois, et des Français aussi un peu en plus, et pour une exposition de peinture qui avait dans le sujet étaient les peintres qui avaient peint le Léman. C'est une exposition qui s'appelle Léman Collia. J'ai adoré faire ça parce que j'ai fait un film tableau. Je me dis, on va pas faire un collage d'extraits. Je dis d'abord oui, puis après je vois. Et en travaillant un peu les différents extraits, les différents films, j'ai eu envie de me dire, on va faire un film tableau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va être présenté au milieu des autres tableaux. Donc c'est un tableau, mais qui bouge. Et j'ai essayé plein de choses dans le montage, mais dans le son aussi. Vous savez que le son était que au casque, parce que c'était une salle d'exposition. Du coup, j'ai que gauche et droite. Et ça offre et le silence. Parce que quand vous avez un casque sur les oreilles, vous pouvez un peu vous déconnecter. Donc j'ai mis des moments de silence, du moins à droite, à gauche, etc. Enfin, je me suis bien amusé avec ça. Et l'été dernier, j'étais jury à Locarno. Il fallait que je présente quelque chose. Du coup, j'ai en effet une version cinéma avec un mixage 5.1. Et là, c'est génial parce que je me dis, c'est juste pour montrer un truc que j'ai fait, je n'ai pas à me dire, je dois faire bien. Et j'ai pris mon pied là à faire du montage dans l'espace, dans le surround. Le surround, ce qu'on appelle surround 5.1, c'est 6 haut-parleurs. Il y en a 3 devant, enfin 4 devant et 2 derrière. Et voilà, on peut jouer après sur tout ça. Donc voilà, j'ai fait des essais. Du coup, c'est vrai que maintenant, en pensant au lac, je pense à un mixage. un espacement du son. Je pense même à peut-être une version possible du film en trois écrans, un écran de chaque côté de la... Parce qu'on en avait parlé avec Jean-Luc un petit peu, puis je sais pas si pour son film on va le faire, mais du coup, là je me dis tiens, ça pourrait être pas mal de faire un truc comme ça.
Une hypothèse de film en trois, de, un film en trois écrans.
Ouais, c'était un peu une... ouais, pour celui-là. Ouais. Peut-être, enfin je me dis oui, tiens, il y a quelque chose de très visuel, il y a quelque chose de sonore. Ça peut être intéressant de se dire, c'est pas une démarche esthétique ou intellectuelle, ou je sais pas de quelle analyse de je sais pas quoi. C'est dire, bah tiens, on se dit l'espace c'est ça. Comme on ferait une mise en scène au théâtre, on se dit bon ben voilà, la taille de la scène c'est ça, l'espace c'est ça, c'est trois écrans, voilà. Du coup ça oblige à remettre tout à neuf, tout c'est d'ailleurs un truc, je sais pas, je surfe un peu, mais ça va,
c'est très bien de surfer.
À Locarno je me disais ça pendant, en voyant les films de la section où nous étions jury, que c'est difficile aujourd'hui. Je repensais à un truc que Jean-Luc avait dit ici à la Cinémathèque d'ailleurs, à propos de Cinémathèque, qu'aujourd'hui c'est difficile parce que tous les cinéastes, les jeunes cinéastes qui font un film, ils, a priori ils ont souvent un peu étudié, regardé plein de films, ou on leur dit qu'ils n'en voient pas assez, mais on imagine qu'ils ont quand même vu certains, ou en tout cas certains films qui les ont inspirés ou donné envie d'aller là-dedans. C'est vrai qu'il y a un énorme passé de cinéma. Alors, il y a 115, 120 ans maintenant, je ne sais plus. Et qu'aujourd'hui on a les techniques qui peuvent tout faire. Justement, là, ma petite caméra qui permet de tourner sous la pleine lune. Enfin bon, j'ai un bouton, ça fait. Enfin, vous avez dessus les menus effet ci, effet ça, quoi. Moi, je mets pas d'effet, mais vous pouvez faire le noir-blanc comme si. Voilà. Et j'ai vu plein de films l'été dernier où je voyais, ben oui, ils ont fait le noir-blanc à la Pasolini, cadré 4 tiers, en 1,33. Mais aujourd'hui, pourquoi on fait du noir et blanc cadré comme Pasolini alors que je dis oui parce qu'il le connaît, enfin voilà. Et puis alors que je me dis qu'à l'époque Pasolini, il n'avait pas forcément le choix, il avait peut-être dû un 66 ou s'est tourné en 16, certains trucs qu'il avait ou je sais pas. Puis il avait qu'un format 1,33 et du noir et blanc parce que c'était du noir et blanc. Et puis ben voilà, trois focales, ben voilà. Et puis on a un sujet, on filme le sujet, puis on va voilà. Aujourd'hui. On a tellement tout qui a été fait ou certaines choses ont été faites qu'on peut tout faire avec nos caméras, faire du scope, enfin c'est juste un bouton quoi, ça coûte rien, que c'est très difficile, je me dis, de trouver quelque chose de différent, de se mettre un peu le cerveau à zéro. Et justement Jean-Luc disait ce qu'il disait à Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque française, il avait dit qu'il fallait brûler la Cinémathèque, que c'est le seul truc qu'il faut faire, c'est brûler la Cinémathèque pour pouvoir la recommencer. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est à la fois ça, oui ok d'accord, on va pas quand même pas brûler tout le passé, mais en fait ça voudrait dire deux choses. Ça veut dire un, si on a la recommencé, avec quoi on la recommence, on peut se souvenir de ce qu'on a vu, hein, mais bon déjà ça ferait un, et aussi surtout repartir sur quelque chose de complètement différent, se dire on a la technique, c'est quoi, c'est ça, cette caméra, cet appareil, enfin cet enregistreur son qui enregistre en stéréo, un appareil photo, un truc, voilà, repartir de là simplement. Donc ça va être de penser à un film trois écrans, pas trois écrans l'un à côté de l'autre, mais un écran à la place de l'écran du cinéma et un de chaque côté de la salle, par exemple. Bah, voilà, c'est se replonger dans un truc vierge et puis de voir est-ce que ce que je veux dire... Ou... Bah, personnellement, je ne cherche pas à dire, moi je cherche à exprimer. Je suis très maladroit avec les mots. Écrit, c'est encore pire. Donc là, j'écris un scénario, vous imaginez, j'espère que... que les gens comprendront quand même. Enfin, j'espère surtout qu'ils comprendront le film après, puisque ils ressentiront le film plus qu'ils comprendront le scénario, j'espère. Enfin bon, il faut quand même qu'ils imaginent. Enfin, je dois faire un peu quand même, leur faire miroiter le truc.
Pour pouvoir le faire. Le film.
Ouais, c'est ça. Mais bon, je dois quand même passer par les mots. Mais je trouve que le cinéma, ce truc de génial, c'est qu'il permet d'exprimer les choses sans les mots. Ce qu'on n'arrive pas à dire, on peut le dire avec l'image et le son, le montage, l'espace, le temps, comme la danse, comme la musique, mais mélanger musique et danse et peinture mélangées, quoi.
C'est qu'il disait, il ne s'agit pas d'exprimer mais d'imprimer un truc où, c'est du coup pas dans l'expression du langage, ouais. Etc. Mais on peut se mettre en position de réception.
Ouais, ouais, recevoir. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais c'est comme... j'ai pas fait d'études de lettres, tout ça. Pour moi, la poésie, elle est très forte. C'est pas le mot qui est beau, c'est le silence qui est entre les mots. Bon, donc c'est l'ajustement, mais c'est pas le mot en soi. Oui, quand il y a un mot, oui, bon, ben un mot, c'est juste un mot, quoi. C'est un peu plat. C'est parce qu'il est mis dans un truc avec un sentiment chez nous, quoi. Donc, c'est comme une note. Ça veut rien dire, une note de musique.
Et du coup, par rapport à ça, c'est une analogie. Si on fait l'analogie avec le cinéma, cette question du silence qui devient le truc le plus important, enfin la chose la plus importante, peut-être. Ça serait quoi le silence en cinéma, presque de manière littérale pour la bande son et puis pour l'image. C'est en attrapant ce que vous venez de dire sur la poésie. Mais...
Non, alors sur le silence, c'est... Bon, j'ai essayé, évidemment, moi j'adore les moments de silence. Mais donc, j'en ai mis dans mes bricolages, des moments où il n'y a plus de son, je n'ai pas de son. Il y a de toute façon le son de la salle, les gens, la soufflerie, enfin voilà, donc il n'y a jamais vraiment de silence. Mais il y a le silence du moment, le présent. Enfin voilà, peut-être le silence, ça plante dans le présent. Un truc comme ça. Mais je suis pas analyste, hein. Moi je fais que les trucs de manière sensitive, quoi. Je me semble que je ressens ça, donc voilà, je le mets là-dedans. Évidemment, pour qu'il y ait du silence, c'est comme pour qu'il y ait du noir ou du blanc, il faut qu'il y ait l'inverse avant et après. Ou alors le fait que ça dure longtemps, qu'on se dise tiens, mais en fait, si on fait un film sans son complet, on se dit tiens, mais il n'y a pas de silence en fait. Si on met pas de son, je pense qu'on pourrait se dire tiens, dans un film, il n'y a pas de silence. Parce qu'on se rend compte qu'on entend tout plein de trucs. Et c'est peut-être ça le sujet. C'est que du coup, on n'entend pas qu'on a une montre qui fait un petit bruit. On n'entend pas que la dame, elle a un cœur qui bat à son côté. Voilà.
Donc c'est... Ouais, le silence, c'est vraiment une espèce de rapport d'échelle. Et cette pièce de Max Neuhaus, qui est le compositeur américain, c'est une espèce de son continu que personne ne remarque. Et tout d'un coup, il s'arrête. Et c'est le moment en fait où on entend la pièce, c'est quand elle s'arrête. Il y a un effet de choc, quoi.
Non, je me demandais, une question purement technique. Vous dites alors que vous n'êtes pas technicien, mais vous n'avez pas de problème avec la technique.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez un peu développer là-dessus? C'est-à-dire, ça vous dérange quand vous décrivez comme technicien, par exemple, ou il y a un enjeu?
Non, alors je pense qu'il y a des choses qui sont très, très complexes, quoi. La physique. Mm-hmm. La physique nucléaire, ce qui se fait au CERN, des physiciens, voilà. Là, je veux dire, ça, c'est des techniciens, quoi. Je comprends. Je ne sais pas si vous avez compris les ondes gravitationnelles.
On va essayer.
Voilà, moi, je ne comprends pas, mais là, je trouve fascinant. Et eux, c'est des techniciens. Quoi. Quand on dit technicien pour le cinéma, c'est un peu revenir à une vision... cinéma, il s'est tout de suite été pris un peu par, peut-être c'est déjà né un petit peu par le commerce et des gens riches, c'est tout de suite devenu un produit de luxe, quoi. Donc du coup il a fallu tout de suite le distancer par rapport à un truc simple comme le dessin au fusain, je sais pas, ou le théâtre. Ouais, voilà, par rapport au théâtre, le théâtre c'est vu très tôt machin, et puis on y va. Le cinéma, ça devait être vite tout un truc, non, c'est pour une élite économique. Alors qu'en fait, une caméra 35, celle de... Au départ, peut-être pas, même d'ailleurs celle de lumière, je crois. Enfin, si, ils étaient quand même un petit peu commerciaux, ces deux frères, hein, ils étaient quand même un peu... Mais c'est un truc tout bête, qu'avec un seul appareil, vous faites tout, quand même. Enfin, vous faites à la fois les images et vous les projetez. Donc, c'était pas forcément très complexe. Tout de suite après, on a dû mettre des techniciens pour rendre le truc complexe. Mais en soi, il n'y a rien de complexe dans le cinéma. En pellicule, il pouvait y avoir un petit peu, on se dit oui, c'est complexe parce qu'il faut faire attention à ci, à ça, mais ça prend une journée. Après, ce qu'on fait avec, c'est pas des questions techniques, c'est des questions, je sais pas, sensitives ou autres. D'ailleurs, je sais pas, même. Peut-être il y a des techniciens, c'est Kudelski qui invente le magnétophone portable. Bon, oui, voilà. Voilà, c'est un ingénieur. Là, oui, parce que voilà. Mais sinon, d'utiliser les outils, non, il ne faut pas être technicien.
Bon, il y a une tradition de délimitation de champs.
Oui,
de
bon, après, c'est les métiers. Après, bon, si ça fait vivre des gens, et puis qu'on trouve de l'argent pour les payer Moi, il y a un truc qui me sidère un petit peu, c'est que celui qui tient la caméra, il est payé deux fois le prix du type qui tient le micro. Je ne comprends pas pourquoi cette différence-là.
Ça dit beaucoup de l'importance visuelle de notre société comme du cinéma.
Non, mais surtout l'espèce de hiérarchie, celui qui a la caméra, machin. Non, alors que surtout, c'est la caméra qui travaille, c'est pas le type qu'il y a derrière. On a fait plein de trucs, ben avec Jean-Luc, c'est vrai, des plans ou dans Film Socialiste, j'y pensais tout à l'heure, je sais plus pourquoi. Sur le bateau, ben si, je le cite souvent comme exemple, mais c'est vrai que j'avais trouvé cette petite appareil, ça, qui était petit, mais je le trouvais énorme, un appareil photo 5D, sur lequel je m'amuse à mettre des objectifs allemands un peu anciens dessus, parce que j'ai une espèce de vieux mythe du Leica, donc j'adore mettre des vieilles optiques Leica, et de retrouver l'appareil photo, je trouve ça génial, c'est qu'enfin au cinéma je pourrais retrouver ce que je faisais en photo, c'est-à-dire de pouvoir m'acheter ce que je rêvais d'avoir quand je faisais de la photo avant, c'est justement des optiques Leica ou un appareil Leica, etc. Donc bref, j'avais cet appareil photo plus un objectif dessus. On était sur ce bateau, le Costa Concordia, on fait un plan, juste pour lui montrer si c'était la bonne focale, tout ça. Je pose la caméra n'importe comment sur son trépied, planté comme ça devant le jeune garçon qu'on devait filmer. Je dis voilà, c'est juste pour vous montrer la focale, quoi. Enfin, si... Ah, c'est bien, touché à rien. Bon, voilà. Et j'ai regardé le plan, il est magnifique le plan. Après, on va dire oui, c'est le technicien qui. Ou c'est l'opérateur, ou alors c'est si. Non, c'est une caméra et l'optique. Quoi. Donc, c'est alors là, les techniciens, oui, c'est l'opticien allemand qui a développé le Sumilux qui est 50 mm qui était devant, et puis peut-être aussi les ingénieurs japonais qui ont développé le 5D. Mais celui qui l'utilise, non. C'est pas très sorcier de ne pas brûler un son, de ne pas brûler une image, ou de la brûler. Alors, c'est plus compliqué de ne pas. Faire rétrécir son pull en laine dans un lave-linge, quoi. Là, c'est faut être technicien. Franchement. Non, mais franchement. Voilà.
Après, c'est pas très sorcier de pas saturer un son ou de le saturer, mais de le saturer bien, par exemple, ou que ça rentre dans une continuité.
Mais non, il faut mettre les doigts dedans et puis écouter. Et puis, vous parliez de réception tout à l'heure. Ben voilà, faut juste. Tiens, ça m'intéresse d'entendre ce son comme ci ou comme ça.
En fait, ce qui est compliqué, c'est d'écouter et de regarder plus que de faire.
Ouais, c'est peut-être ça, ouais, c'est de recevoir. Ouais. Du coup, c'est bien de peut-être brûler la cinémathèque pour repartir à zéro, pour être prêt à recevoir, de se la brûler soi-même.
Et de faire les tests soi-même, enfin, de quelque chose, de l'appropriation des outils, c'est ça dont vous parlez aussi, ouais. Je pense.
Ben c'est que moi j'ai un problème avec les mots, de dire à quelqu'un, tu sais, il faudrait que tu fasses un truc qui soit saturé. Alors il va penser saturé d'une manière. Et c'est assez drôle d'ailleurs sur la fidélité, parce que Jean-Luc, donc on a un nouveau projet en cours, enfin il a un nouveau projet pour lequel je me convie encore à mettre mes pattes dedans. Jean-Paul et moi d'ailleurs, hein,
une petite famille,
oui, on peut dire famille. Jean-Paul Battaglia et moi. Il y a une partie de ce film qui serait adaptée d'un roman de Kosri qui s'appelle Une ambition dans le désert. Et alors c'est assez drôle parce qu'on a lu le livre, etc. On va faire des repérages dans différents endroits. Et puis Jean-Paul disait oui, bon ben voilà, moi j'ai essayé de faire une description de ce que j'ai assez fidèle du livre. Jean-Paul disait ça. Et moi j'en ai fait une aussi assez fidèle de. En fait, les deux n'ont rien à voir. Donc, on a deux fidélités envers le même objet qui sont complètement différentes. Quoi. Donc, la fidélité, voilà. Je ne sais pas pourquoi je parle de la fidélité, mais oui, c'est ça, des mots. C'est-à-dire que même le même roman, moi, je le vois totalement différent. Moi, j'ai dit, mais non, la maison du personnage principal, c'est une petite baraque sur la colline. C'est un peu la maison bleue accrochée à la colline. Enfin, c'est une maison accrochée. Voilà, je voyais ça, moi. Et lui, il voyait plutôt un truc plus cossu. Je dis, mais non, c'est ça, la maison. Enfin, voilà. Le même roman, hein, donc les mots ça marche pas trop. Enfin, si ça marche, parce que sur moi ça a marché. J'ai vécu quelque chose. Quand je lis une poésie, je vis quelque chose. Ça sera pas la même chose que chez quelqu'un d'autre. Donc s'approprier les outils, c'est juste, ouais,
bidouille,
essayer, bidouille, essayer, toucher, voir par soi-même les trucs. Et puis c'est aussi bien travailler avec d'autres. Hein, je dis pas, hein, mais.
Et alors comment vous travaillez, vous passez du temps à essayer avec l'idée d'essayer pour quelque chose, ou il y a des moments où c'est du pur essai, comme je sais pas, vous dites ok, 2 heures par semaine je fais du pur essai,
non, Non, mais j'ai pas de règles ni de dogmes. Je suis extrêmement athée, j'ai sans Dieu ni maître, quoi, donc j'ai pas de.
C'est-à-dire que quelqu'un vous parle par exemple d'un projet, ou vous avez un projet et donc vous faites des tests ou des.
Ben non, mais là, Jean-Luc, par exemple, on regarde, il dit ah, ben, on pourrait faire le truc en 3D. Mm-hmm. Il me dit ben, vos moments perdus, bricoler, enfin, regardez ce que vous pouvez. Ben, après, c'est un cheminement, quoi. Donc je dis bon, qu'est-ce que c'est la 3D? On va regarder un truc. Ah, c'est ça. Alors je prends sur internet des informations, je lis, je dis oulala. Mais j'ai envie d'essayer tout de suite, alors je vais chez Ikea. Non, si je me dis, ah, il faut mettre des verres polarisants, enfin, il y a un truc avec des verres polarisants, puis deux projecteurs. J'ai deux projecteurs par hasard là, donc je démonte une lunette avec des verres polarisants, puis j'essaye, quoi. Puis ça marche pas. Je vais chez Ikea acheter une espèce de plaque métallique pour. Enfin, voilà. Puis après, je me dis, ça marche, non, puis petit à petit, voilà. Donc c'est. Là, je parlais ce matin encore de 3D et puis qu'il y aurait d'autres solutions, je disais ah bah tiens, ça pourrait être intéressant d'utiliser de la 3D anaglyphe en spectacle, c'est avec un chorégraphe, je parlais ce matin, enfin voilà, je me dis bah tiens, ça, on n'a pas essayé ça, d'éclairer en anaglyphe, je sais pas si ça a été fait d'éclairer en anaglyphe, mais l'anaglyphe c'est un système 3D un peu ancestral où, par une séparation de la couleur,
oui, c'est ça.
Mais du coup les magazines 3D qui sont sortis au moment où c'était le trip 3D en 2010, hein, ils imprimaient avec des lunettes, vous mettiez des lunettes rouges cyan ou je sais plus quoi, bleu et enfin cyan et magenta, un truc comme ça, et vous aviez des images 3D imprimées. Je disais bah, c'est amusant parce qu'on devrait imprimer des costumes en 3D, des costumes de théâtre en 3D, enfin bref, voilà. Je dis, ah, on n'a pas essayé ça, tiens, faut l'essayer. Mais après, il faut que j'arrête parce que sinon je.
Non, mais pour le coup, ça veut dire que, quand même, par exemple, dans le cas de Jean Godard, lui, il a une. Est-ce qu'il démarre avec une idée en disant je vais faire un film en 3D, donc j'appelle un autre bidouilleur, parce que le bidouilleur il est aussi. Et puis on travaille en collaboration, mais il vous demande des choses.
Bah, il me demande déjà comme ça, quoi. Enfin, sur film, vu que ça a commencé avec Socialisme, où il ne savait pas s'il voulait faire du 35 ou du numérique. Non, de la HD, c'était le trip de la HD là, en 2008. Et il avait une équipe avec un opérateur. Alors là, ouais, le technicien français, quoi. Quand même, mais petit, il avait son assistant, mais quand même le chef opérateur, le directeur de la photographie. Enfin, c'est. Et en 35 mm. Et puis il en avait un peu. Enfin voilà. Il se posait des questions, surtout qu'en même temps, il y avait les petits magasins d'électroménager autour de Roll vendent des petites caméras HD pour les parents qui veulent filmer leurs enfants au bord du lac. Il en a acheté une. Du coup, moi, il voit que je bricolais avec mon ordi parce que j'avais un ordi. Et il me pose la question si je sais m'en utiliser, si je saurais faire quelque chose avec. Je bricole. Du coup, je fais des essais. Voilà. Alors, c'est bien parce que moi, je suis pas forcément à me dire faut tout de suite aller chercher le défaut ou le truc merdeux ou la saturation pour faire un peu genre. Parce que. Ah non, moi je me dis, bon, bah, je vais faire les essais comme un vrai opérateur technicien ferait, que je ne suis pas. Donc, de vérifier les contrastes. Puis là, que je me rends compte, la caméra, elle n'est pas intéressante pour ça. Puis comme je suis têtu, ouais, c'est ça, je suis un peu têtu, quoi, j'ai un peu la tête dure. Je me dis, bah non, alors, comme il m'a demandé d'essayer, je vais. Qu'est-ce que ça fait si je mets tous les boutons à l'envers, quoi. Et puis c'est là que je trouve que c'est plus amusant. Amusant, hein. Je ne sais pas que c'est intéressant. Je ne sais pas que, ouh, c'est intéressant cette couleur. Non, ça m'amuse plus. De changer la fréquence d'image. Ah tiens, c'est rigolo, parce que là où je voyais du noir, il se passe quelque chose maintenant, parce que voilà. Et ben voilà, je montre ça à Jean-Luc, puis il me dit, ben très bien, vous pouvez faire l'image. Bon, ben ok, très bien. Donc, voilà, sans que ce soit plus complexe que ça. Et puis, il me pose souvent des questions, puis vous avez vu ça, il voit dans les journaux un nouvel appareil, un truc, un machin. Puis moi, je lui amène des combines. Voilà. C'est pas qu'il me convie à la. Un peu comme ça, de manière un peu officielle. Nous allons expérimenter. Non, c'est. Voilà. On me dit un truc, je dis, bon, bah voilà, puis la nuit, je dors pas, ou je sais pas, donc, mais je me dis, ah, bah tiens, si on en mettait trois, bah voilà, on en met deux, quoi, si on en mettrait pas trois, voilà. Enfin, ça marche pas, hein, enfin, c'est vraiment nul, quoi, mais c'est vrai, comme j'ai fait une année d'école d'ingénieur, presque au début, après avoir fait une école où j'ai appris à apprendre par soi-même, certains, une grande école importante qui s'appelle École d'Humanité, mais c'est une pédagogie qui devrait être partout, quoi, parce que c'est la seule chose qu'il faudrait donner aux enfants, c'est apprendre par eux-mêmes, quoi. Ah bon, moi j'ai eu la chance d'avoir, parce que j'étais en révolte ici, mes parents m'ont envoyé là-bas, c'est au milieu des Alpes, École d'Humanité, je la recommande vraiment. Et j'y ai appris à apprendre par moi-même. C'est de, le truc là-bas, vous faites les choses par vous-même, de toute façon c'est pas... C'est pas quelqu'un qui doit expliquer les choses. C'est des choses. Un enfant, un bébé, il naît, il apprend la langue de sa mère, maternelle, on dit, enfin, la langue qu'il entend par lui-même. Il n'y a pas besoin d'explication pour. Voilà. Donc tout le monde arrive à apprendre la même chose, tout le monde a la même. Tout le monde a la même intelligence. Après, elle est différente. Mais une quantité d'intelligence, tout le monde a la même. À part ceux qui ont des problèmes. Grave de psychologie, enfin pas psychologique, mais physionomique, enfin je sais pas, ouais, des lésions au cerveau, mais sinon tout le monde a la même intelligence. Donc on apprend très bien par soi-même. Je recommande d'ailleurs un livre qui s'appelle Le Maître Ignorant, de Jacques Rancière. Voilà. Que j'ai lu, que Jean-Luc a lu, mais enfin ça répond avec la formation que j'ai reçue que 30 ans plus tôt, quand je l'ai lu aussi, parce qu'il en parlait. Et dans son film, il en avait là. Enfin, voilà. Je me dis, bah, tiens, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et aussi, c'est drôle, ce que j'ai expérimenté. Une fois, j'ai dû donner un cours, parce qu'on me considère comme technicien, et un cours sur un logiciel d'animation qui s'appelle After Effects, bon, que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais Photoshop et je connaissais Final Cut ou Avid. Photoshop, c'est des traitements d'image, et Final Cut et Avid ou Pro Tools, c'est des logiciels de montage, donc des choses dans le temps. Et un prof m'a dit, ben écoute, il faut que tu donnes des cours à ces étudiants-là, maintenant, sur After Effects. Tu connais ? J'ai dit, ouf, j'aime pas dire non. J'ai dit, ouais. Bon, eh ben, j'ai donné le cours sans savoir comment fonctionnait le logiciel, mais c'est génial parce que je me disais avec les étudiants, bon, comment est-ce qu'on fait ? On imagine qu'il faut bien mettre qu'il y a un truc dans le temps, vu que c'est plutôt pour faire des animations. Donc, il doit bien y avoir un endroit où il y a un truc de temps. Ben, je vois qu'il y a un truc là, il y a un truc avec du temps. Ben, il y a sûrement un endroit où on doit pouvoir mettre une clé, dire que c'est comme si là et c'est comme ça là. Ben, on cherche un peu, puis on trouve. Puis je me dis, mais c'est génial, c'est comme Photoshop, mais dans le temps. Donc, il y a les calques, c'est comme dans. Enfin, voilà. Mm-hmm. Puis c'est pas plus compliqué que ça. En fait. Et tout est comme ça. Fait que cette façon de bricoler par des êtres humains qui ont toujours la même logique, faut pas. S'il y avait un appareil qui était inventé par des poulpes, oui, là peut-être qu'on se poserait des questions, mais sinon, les poulpes qui sont très intelligents. Là, mais, enfin bon, c'était quoi la question ?
Bon, c'était ça, c'était des outils, et je pense que le fait que vous puissiez répondre en disant faut faire par soi-même, ça répond tout à fait à la question, en réalité.
Ça me posait aussi la question de cette espèce de polyvalence, là, de pas se dire technicien, mais quand même, effectivement, au moment des crédits, il y a cette tradition de la technique qu'on va.
Ouais, pas chez Jean-Luc, c'est bien, parce que là, il nous met pas tout. Les noms sont mélangés.
Pas,
quoi.
Comment êtes-vous crédité ?
Eh bien, en fait, c'est un journaliste, de Libération, Olivier Séguret. Qui est venu faire un reportage sur le tournage d'Adieu au langage, c'était pour Next, enfin c'était pour Libé, et puis après je crois qu'il est allé dans un, enfin bref, il est venu avec une photographe sur le plateau deux jours, et puis il a écrit un bel article vraiment, enfin Olivier Séguret est quelqu'un de bien, et il a vraiment ressenti des trucs, et il a écrit un truc joli, c'est que en parlant de Jean-Paul et de moi, il a décrit qui, de manière virile, il y avait deux fées qui étaient là. Qui, bon, ça va, moi je suis là, je parle, Jean-Luc parle avec des comédiens ou avec des journalistes, on a un peu de temps, moi je prends mon temps, puis, ben, je bricole mes trucs, quoi. Je mets mes câbles, mes machins, les micros, les caméras. Et, mais je parle pas, quoi. Enfin, donc, donc voilà, donc Jean-Paul et moi, on est des fées. C'est très bien, enfin, on est très honorés d'être devenus des fées. Donc voilà, il n'y a pas encore dans les génériques fées, mais Jean-Luc ne met pas de. On n'est pas crédité comme un rôle particulier. Dans le film socialiste, c'était Logos, je crois. Je crois qu'on était dans Logos.
Mm-hmm. Alors, vous n'aimez pas trop parler.
Oui, j'en parle. Hein. Non, parce qu'il y avait, je sais plus au début du film Socialisme, il y avait chaque titre était avec un chapitre comme ça, grec, mais je sais plus si on était dans les logos. Et dans Adieu au langage, on n'a rien du tout, quoi. Enfin, c'est tout mélangé, dans Les Trois Désastres aussi. Mais c'est vrai que je m'occupe plus, mais parce que je suis un peu autiste, je préfère être des, je bricole avec mes outils. C'est peut-être aussi un transfert, enfin, pas un transfert, un.
Une barrière.
Non, pas une barrière, non, mais une marionnette, quoi. Mm-hmm. Je travaillais dans un théâtre de marionnettes avant aussi, j'ai oublié de le dire, c'est extrêmement important. Mm-hmm.
Quel théâtre ?
Théâtre de la Poudrière.
Okay.
À Neuch. Enfin, entre autres, mais c'est vrai que la marionnette, c'est la liberté totale d'expression, d'espace, on peut tout faire en marionnette. Pas que les spectacles pour enfants, au contraire, on peut faire des spectacles avec un sucre qui se noie dans un verre et qui disparaît, et on pleure parce qu'on voit la décomposition d'un individu. On peut faire un truc immense qui remplit tout l'espace, voire même plus. Marionnette, c'est une liberté totale. Et c'est vrai que dans le cinéma, je n'ai pas retrouvé cette liberté-là. Je n'ai pas retrouvé, quoi. Quand je suis arrivé ici à Lausanne, dans le canton de Vaud, les gens m'ont dit, mais non, ça, tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Mmh. On peut pas faire. Non, faites des choses simples. Ils me disent, alors moi, je voulais faire le monde entier. Le cinéma, moi, je voulais Antonioni, Fellini, je sais pas, moi, je voulais. Il y avait un studio de cinéma. J'ai dit, c'est très bien, on va faire un orage là-dedans. Hein. Et on me dit, non, ça, on peut pas faire. Je dis, comme ça, on peut pas faire. Non, on peut pas faire. Bon, j'ai quand même fait un peu, hein, parce que je suis un peu têtu. Mais j'étais très blessé, quoi, par cette castration-là, quoi, tout à coup. Au théâtre, en marionnette, on peut inventer tout. On peut créer des pièces de Dürrenmatt qui n'avaient jamais. Achterlo, par exemple, on avait créé Achterlo, qui n'avait jamais été vraiment monté, qui est une pièce incroyable, insensée, débile, folle, labyrinthique, spiraleuse, universelle. La marionnette le permet parce que tout à coup on peut mettre des superpositions de personnages, c'est juste des... enfin bon, j'arrive à l'école de cinéma, on peut pas. Et ben le fait que la liberté, je l'ai retrouvée chez Jean-Luc, quoi. Mm-hmm. Sinon même c'est d'autres, je parlais avec un chorégraphe ce matin qui fait un truc en 3D. Ben, en fait il a repris la 3D un peu, j'ai le sentiment, je verrai, mais il a repris un peu la 3D un peu américaine, comme ça, bien faite. C'est waouh, on voit bien.
Les bonbons qui s'approchent.
Voilà, on a parlé de ça justement. Hein, qu'il fallait un truc qui vienne devant pour que ça semble 3D. Et... alors que c'est vrai qu'à marionnette, on se dit pas. Ah oui, il y a de la marionnette à fil un peu con-con peut-être, mais enfin, le tas d'objets, le tas d'images.
C'est juste animer des choses qui. Pas l'être aussi.
Ouais, puis on essaie d'une expression autre, quoi. Même au niveau narratif, quoi. On n'avait pas de. Achterlo, c'est la seule pièce écrite par un auteur qu'on ait créée. Sinon, c'était des créations collectives ou des adaptations de sentiments par rapport à un livre. Mais pas les trois actes, la dramaturgie, tout ce truc-là. Et moi, mes plus fortes impressions que j'ai eues en théâtre et en danse, c'était pas du tout parce que c'était une structure narrative, dramaturgique, classique.
Et par rapport à cette position, vous vous sentez en famille, en Suisse ?
Ben, nulle part, de toute façon, il n'y a pas... Si, il y a, oui, mais pas, c'est pas une question de pays, quoi. Moi, je ne me sens pas suisse, dans le cinéma suisse, ou truc comme ça. Ce qu'il y a bien en Suisse, c'est qu'on peut vraiment tout faire. Il y a une liberté possible d'esprit, quoi. C'est vrai qu'à Paris, on est cloisonné dans un truc de rôle. Justement, alors là, le technicien omniprésent, ou la technicité omniprésente, le professionnalisme partout, les assistants, qu'il faut être d'abord quatrième stagiaire avant de passer troisième, avant de passer deuxième, avant le premier, avant ci, avant ça. Tout le monde qui se pousse des coudes, tout le monde qui écrase les autres, tout le monde qui se vante là, par la parole, là, le jeu, le théâtre... de la vie, qui est, je trouve, c'est une tragédie totale. Ça détruit du monde, ça transforme les jeunes actrices en espèce de truc. C'est terrible, quoi. Celles qui réussissent, c'est vraiment des Jeannes d'Arc. Elles sont obligées de se mettre des boucliers partout, mais qui sont quand même blessées, quoi. Enfin,
et ça, c'est pas le cas.
Je trouve pas trop, non. Je trouve pas trop. Parce que c'est un peu. Peut-être à Genève. Ou alors ils sont. Oui, non, mais il y a un truc en Suisse par contre, c'est qu'ils sont frustrés de ne pas être français ou frustrés de ne pas être américain dans le cinéma.
Donc une manière d'être français, de pouvoir être français, ce serait de professionnaliser le cinéma suisse.
Ouais, c'est ça, ils veulent faire une industrie, machin.
Ça fait 5 ans que c'est la grande mode de la professionnalisation, notamment par rapport à cette histoire de scénario qui est une catastrophe absolue dans les commissions, dans tout ça. Enfin, ça devient peut-être qu'à un autre niveau, qui n'est pas le mien, mais évidemment. De Jean-Luc Godard ou de
Jean-Saint-Denis. Lui, il n'en a pas d'argent suisse. Quoi. Mais d'ailleurs, je me demande si on déposerait, s'il serait. Il faudrait le faire de manière anonyme. Je suis sûr déjà que les mecs qui lisent ne se rendraient pas compte de qui est l'auteur de la chose si on ne le fait pas signer. C'est quoi? C'est du collage d'images, du collage de textes, c'est mal fait, c'est fait à la main.
On ne comprend rien à ce scénario.
Oui, on ne comprend rien, il n'y a pas d'histoire. Bah, d'ailleurs, ils avaient. Bah, pour Anne-Marie, quoi, il lui avait refusé deux fois des. Anne-Marie Miéville, deux fois de financer des films. Non, il y a ça en Suisse. Mais sinon, au-delà de ça, enfin, je sais pas, là, mon projet de film sur le lac, bon, bah, voilà, ça va, on va le faire. Enfin, c'est pas, oui, c'est pas passé dans des commissions professionnelles, quoi.
On peut sans doute trouver des petites sommes d'argent.
Ouais,
plus facilement qu'en France parce qu'il y a moins de monde aussi. Donc sur des petits, je pense à des petites choses, c'est des choses énormes, mais en termes financiers, c'est sans doute plus.
Et ouais, non, mais la frustration de pas être américain, c'est. Et sur les accents aussi. On n'ose pas faire un film avec un accent suisse, jurassien, neuchâtelois, vaudois, alors que Michel Simon le faisait dans La Talente. Pourquoi ? Enfin, voilà, un truc d'une bêtise. Les Belges le font, puis on dit « Ouais, c'est super !» Ça devient presque une mode maintenant qu'il faut faire du film tourné à Liège, un peu popu, un peu genre striptease, les documentaires striptease. Il faut que ce soit belge, il faut que ce soit toujours comme ça, puis qu'il y ait toujours une caravane, puis qu'il y ait toujours des femmes séparées, puis qu'il y ait toujours des gosses qui râlent, enfin, comme le film suisse qui était l'année dernière dans une section une espèce d'étiquette. Bah, ici, pas du tout, quoi.
Donc les films tournés ici, c'est avec une sorte d'accent du français
Non, il y a, mais c'est cliché, quoi. Ou quand il y en a, on s'en moque. Je crois qu'il y a une série télévision qui était faite en Valais, vous n'aurez plus l'accent, mais... Je sais pas, là, j'y viens de voir un téléfilm en costume qui se passe dans le monde de l'horlogerie à Locle, dans le Locle, enfin au Locle, je ne plus parler français, quand on est Châtel. Et tout le monde parle un français parisien, quoi. Parce qu'ils avaient dit, mais si on leur fait parler un peu. Enfin, en plus, je perds l'accent, je suis un peu caméléon. Mais s'ils reprenaient un peu l'accent de là-haut, ça serait déjà plus juste, quoi. Il y aurait un truc plus vrai avec l'horlogerie, avec l'horlogerie, quoi. Enfin, il y a un truc, il faut dire les mots, quoi. Enfin, l'horlogerie, elle est née à 1000 mètres. C'est une espèce de. Pour mon sentiment, c'est une espèce de nécessité de se fixer des trucs parce qu'on est au milieu des étoiles et des températures extrêmement basses et on devient un peu fou. Donc, on est obligé de se concentrer dans le petit truc pour. Être sûr que ça tienne, sinon on devient taré, quoi.
Est-ce que vous feriez une analogie avec l'horlogerie? Parce que comme ça devient tentant juste de vous entendre parler de ça, faire l'analogie avec le cinéma, une manière de, par exemple, je sais pas, de bricoler une caméra, de se fixer, vous parliez de côté têtu, un peu entêté comme ça, à régler des...
Ouais, peut-être. Bon, moi je suis pas horloger, mais...
Sans parler des prouesses techniques de l'horlogerie, mais juste de l'activité de...
Là même une montre, hein, c'est bêtement simple, hein. Alors, après, c'est juste un assemblage d'engrenages qu'il faut bien faire. Et, ouais, mais au départ, c'est un petit mouvement qui est tout bête. Hein. Non, je sais pas. Alors, l'analogie
c'est,
avec.
C'est une tendance, je me dis, mais bon, peut-être là, on a des choses plus concrètes, mais ça me fait penser à justement ce qu'écrit Latour, hein, si on veut faire de la pub mal placée, mais qui dit que par exemple, par rapport à l'histoire des sciences, on a toujours survalorisé la place de l'homme, alors que. On a dévalorisé la place des outils qui sont quand même la base de la science. C'est-à-dire, au fond, l'homme, il ne fait pas grand-chose à part mettre bien les outils ensemble.
Si, non, mais l'homme, il reçoit à la fin. Et on le met... La caméra que j'ai lâchée n'importe comment sur le pont, il y avait quand même devant le gosse,
oui, bien
qui
sûr.
Est un fondement total de d'atomes, de molécules, d'ADN mélangés de tout un... posé sur un bateau, la caméra de travers, du coup on voit l'horizon qui penche, du coup on voit l'horizon. Je sais pas, la force elle est pas dans juste le petit transfert qui est entre les deux, il est entre celui qui ressent quelque chose par rapport à ça et le soleil en contre-jour et le gosse. Au contraire, non, l'humain est fort, mais c'est juste, l'outil c'est juste le passage, quoi. Voilà, mais.
Et c'est quoi cette caméra superbe que vous avez découverte ?
Bon, c'est une marque japonaise.
D'accord, c'est pas un truc...
C'est pas un truc hip. Si, si, mais c'est une caméra pas chère. Elle coûte 1800 euros par rapport aux caméras à 500 000, ou pas 500 000, à 50 000 ou 60 000.
Voilà. Je crois que j'avais regardé.
Enfin, je crois qu'elle y est. Il y a un cahier du cinéma qui est sorti, là, je crois, avec plein de trucs de caméras. Elle est dessus, je suis content parce que j'ai montré à Jean-Luc, voyez, ouais, celle que j'ai prise, elle est là aussi. Ouais,
elle est dans les cahiers.
Ouais, c'est une petite Sony. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est les objectifs, parce que aujourd'hui, les boîtiers, vous les changez derrière. Vous gardez l'objectif et vous changez ce qu'il y a derrière. Et encore, tout ça, c'est même un peu du... Moi, c'est mon petit côté un peu... C'est un peu, comment on appelle ça, une coquetterie, quoi. Ouais. Je ne sais pas si c'est... Mais des gens qui, sur Radio Langage, ont écrit des thèses, font des doctorats sur le flair. Vous savez, le flair, c'est le reflet, c'est un défaut optique, si vous voulez. C'est un reflet à l'intérieur de l'objectif qui fait des espèces d'apparitions de lumière bizarres. C'est vrai qu'il y en a eu 2-3 sur Radio Langage, c'est un cadeau du ciel, quoi. Et là aussi, ouais, alors voilà, il y a les dieux, peut-être, on pourrait dire. Sur le chevet ou sur les épaules de Jean-Luc, il y a...
Sur les faits, il y a les dieux.
Ouais, peut-être, voilà, elles étaient là. Les déesses, ce serait plus sympa, quoi, que les dieux, c'est quand même... Je préfère les déesses. Ben voilà, il y a les déesses qui sont là sur les épaules, parce qu'il y a un plan dans Radio Langage que Jean-Luc avait dit, bon, on va mettre la caméra là, on a mis la caméra là, il était assis sur le fauteuil à côté, moi je faisais la perche, j'ai déjà raconté ça une ou deux fois, mais je plante mes deux caméras, on a déjà tourné ce plan là une fois avant, pas ce plan là mais une scène dans le même endroit, même rapport, tout ça, on avait éclairé autrement, on avait allumé le plafonnier, je sais plus. Enfin, ah oui, c'est Jean-Luc, on met pas de projo, quoi. Hein, on avait allumé la lumière du plafond parce qu'il fallait un peu voir de la lumière, tout ça. Puis l'image, je trouvais ça très triste, plat, moche. Après l'étalonnage, je me suis amusé un peu pour donner un peu de truc. Mais bon, bref, quand on refait un plan dans le même axe, on s'est dit, il faut donner un peu de contraste. Alors on dit, plutôt, on va allumer la lampe qui est là au fond. On ne va pas allumer celle qu'on avait déjà faite. On va allumer celle qui est là au fond. Ah oui, très bien. Celle qui est toujours là, d'ailleurs. On a allumé, c'est une espèce de spot, pas de photogramme, une espèce de bête spot avec une ampoule dedans, derrière. Et puis, on tourne la scène avec que ça comme lumière, juste les volets un petit peu ouverts, pour avoir une petite pénombre, comme ça. Enfin. Et la fille vient, et c'est une scène où elle se rhabille devant un écran de télévision. Et c'est très beau, comme ça. Moi, je regarde avec mes deux petits appareils photo, j'avais réglé le diaph, le point, la 3D, mais bricolé en bois. Hein. Et je prends la perche, je fais le son. Et puis les deux dernières prises, qui, je ne sais pas si c'est Jean-Luc ou quoi, elle fait les deux derniers plans assise sur le fauteuil, alors qu'elle n'était pas assise dans les six premières prises. Et quand elle s'assied, elle pose sa tête pile sur l'ampoule, et ça lui fait un
halo.
Un halo, un truc. Et moi j'étais là avec ma perche, j'étais super content, j'ai dit, ouais, c'est pas calculé, quoi. On n'a pas dit, on met la hauteur de la caméra exprès, la hauteur du truc, pour que machin. Non, c'est arrivé par hasard. Vraiment, le hasard objectif. Ouais, et je vois pas bien, parce que c'est deux appareils photo et deux petits écrans derrière, donc je vois pas bien, mais en regardant après, en travaillant les images en 3D après, parce que je la faisais après la 3D, je me rends compte qu'en fait, là, il y a un flair, il y a un défaut sur un des... des deux optiques, qui fait comme si elle avait un visage qui apparaît sur son visage en contre-jour, ou un truc comme ça. Je dis, c'est génial, c'est du défaut, c'est vraiment pas calculé. En plus, c'est deux objectifs différents, parce que je voulais acheter deux fois le 35 mm. Ça, je peux le dire, c'est le 35 mm Summicron 2, c'est con à dire, mais c'est un optique génial, quoi. C'est pas un technicien pour savoir, pour noter Summicron. 35 mm sur micron, ouverture 2. Non, mais c'est vrai. Ils le font en 35. J'ai failli aller en acheter un. Il y en a un dans un petit magasin de photo chez qui je suis allé. Un coup là en bas. Et ils ont un 35-2 pour Leica M, enfin pour ce petit appareil photo nouveau que j'ai. Ouais. Ancien, des années 70. J'ai fait un essai. Et j'ai pas acheté tout de suite parce que j'avais pas de sous. Mais j'ai vu les essais que j'ai fait à la maison. Et je me dis waouh. Enfin bref. Bref. Non, mais là par hasard, j'avais acheté deux objectifs 35 sur Micron 2 pour mes deux Canon, mais j'avais pas réussi à en trouver deux identiques. Parce que, bon voilà, puis j'avais pas beaucoup de sous, j'avais acheté à 300 balles, donc j'en ai trouvé un plus vieux. C'est toujours un sous-micron, mais d'une génération d'avant, quoi. Donc ils sont différents, les deux. Bah évidemment, il n'y a pas le même flair, quoi. Voilà. Bah, ça se trouve que c'est intéressant. Mm-hmm. Ou alors on se met en position de fait que c'est intéressant.
Être réceptif aussi, il y a beaucoup de ça, donc.
Ouais, ouais.
Parce que,
si on avait cherché.
Ça, ouais. S'il n'y a pas quelqu'un qui dit c'est parfait.
Ouais, et ça, Jean-Luc, il a la capacité à voir à la microseconde le truc intéressant. Ou alors à se dire, on s'en fiche. Je sais pas, hein, mais non, je pense qu'il se sent tout de suite. Mais...
Ça peut être un peu des deux, une sorte de mélange.
Ouais, entre les deux, bah, c'est pas grave si c'est pas bien fait, parce que l'intérêt n'est pas dans la facture, dans ce qu'il y a devant et derrière. Là aussi, c'est l'humain, quoi, devant et derrière, et pas le machin.
Il y a des choix comme ça, mais ça me fait penser, du coup, il y a tous ces trucs sur Bowie qui sont sortis ces derniers temps, et notamment cette discussion. Avec le son producteur dont le nom m'échappe là tout de suite, sur la période berlinoise, qui raconte exactement comment, par exemple sur Heroes ou des trucs comme ça, l'enjeu était de faire des choix hyper forts, vraiment des expérimentations techniques très simples avec Brian Eno et compagnie dès le début, et en fait qui emprisonnaient en fait, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les avait fait, on ne pouvait pas revenir en arrière, les effets étaient sur la piste et il fallait faire avec ça jusqu'au bout. Mais du coup, voilà, c'est de se coincer, en fait. C'est comme des trucs... Enfin, lui, le présentait comme une manière de se jouer un tour à soi-même pour plus tard, plus pouvoir revenir sur ce qu'on a fait.
Ah ouais, ok. Ouais.
Est-ce qu'il y aurait un... Est-ce que ça fait écho, cette manière de... Bah, ouais, de prendre, par exemple, un objectif, ça va pas être le truc parfait, et ensuite, on va pouvoir altérer la qualité...
Non, mais le parfait, la qualité, c'est déjà une bonne chose qu'il faut un peu bannir, parce que ça veut rien dire. Enfin, si, on peut dire la qualité d'une émotion. Je sais pas, la qualité d'un sentiment. Moi, je suis un amoureux de qualité, moi, vous voyez. Ah non, toi, tu n'es pas une amoureuse de beaucoup de qualité. Non, je sais pas, on ne peut pas juger les sentiments, les sensations. C'est une sensation de qualité. Donc, voilà, après, ça veut rien dire. Un parfait aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais sur le fait, je me posais la question là maintenant, si c'est vrai que pour Jean-Luc je me sens libre de faire tous les essais que je veux et je me dis pas il faut faire parfait, si quand même parfois je me dis aïe 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 aïe, mais quand même je suis libre, et enfin surtout j'ai peur des regards des autres, les gens ils vont dire c'est quoi cette merde. Donc, je suis ravi que les gens l'ont dit, il y en a plein qui l'ont dit, faire du langage, c'est quoi cette horreur. Mais il y en a qui trouvent ça intéressant, ils disent bon, ça va. Mais je sais pas si pour moi-même, c'est pas évident, voilà. C'est plutôt pour revenir, pour pas dire, ouais, il y a tous les techniciens, c'est tous des cons qui essayent de bien faire, et puis il y a que ceux qui s'en fichent, qui sont intéressants. Non, au contraire, c'est très difficile de faire ça pour soi-même. Là, je le fais pour Jean-Luc, pour Pipo, pour d'autres, mais là, pour mon film.
Vous allez travailler avec quelqu'un
Ouais, parce que c'est juste parce que comme j'ai travaillé avec une actrice et un acteur, si je crains d'être un peu avec, enfin je sais pas, bon, mais j'aurai ma caméra quand même avec moi, puis je vais faire des trucs, mais je sais pas si j'aurai la liberté, enfin j'espère, on verra, hein, je touche du bois, si j'aurai la liberté de me dire je crois oui quand même, parce que j'ai peut-être un peu ces expériences derrière moi, me dire on y va avec ces optiques trucs, on y va pas avec une grosse caméra, on y va pas avec un gros machin, on y va avec ça, et puis si c'est pas bien, on se posera pas la question si c'est bien ou pas bien, quoi. Mais c'est très difficile de se dire ça à soi-même. Donc la personne qui est engagée et puis qui reçoit un gros salaire, on lui dit voilà, je te mets cette grosse caméra, je te mets 4 électros, 4 machinaux, tu es chef opérateur, directeur de la photographie. Et le mec il dit oh, mais moi c'est bien là, si une optique rayée ça donne des trucs intéressants, il va se dire non, je dois. Donc quelque part c'est, les techniciens sont emprisonnés dans le système aussi, parce qu'on leur dit qu'ils sont techniciens, Et les vendeurs de caméras leur disent qu'ils sont techniciens. Et le... Enfin voilà, toute l'industrie américaine impose ça. Donc en fait, l'esclave, c'est ce qu'on dit, ce qu'on lui dit qu'il est technicien. Parce qu'après l'autre esclave, c'est l'assistant qui doit faire la netteté. Alors le pauvre, les pauvres, ce sont des filles aussi qui font ça. Elles sont en plus une espèce de rapport machiste bizarre.
La netteté, c'est des filles.
J'en ai vu beaucoup, mais j'en ai connu beaucoup. Alors après, elles sont. Enfin, moi, je n'osais pas leur dire des mots parce que tu sens qu'elles sont un peu comme les danseuses sur un plateau de théâtre quand j'étais technicien de théâtre. Moi, un peu puante sous les bras et habillée en noir dans les cintres. Une danseuse arrive sur le plateau, pieds nus, même nos grosses godasses. Voilà, puis on n'ose pas leur dire, ça mange du tofu. Enfin, un gros machin, une bonne bière, tout ça. Enfin, un peu d'or. J'avais les assistants caméra aussi, quoi. Ils sont dans leur truc. Et tu sens que si elle la netteté, elle n'est pas comme il faut, elles se font incendier par des gens. Ou alors elles s'incendient elles-mêmes parce qu'elles ont dit qu'elles ont bousillé le truc. Enfin, c'est une espèce de. Alors qu'avec Jean-Luc, ben, on est le point fixe. Voilà. C'est l'acteur qui ne s'est pas bien placé. C'est pas que la caméra était fausse. Enfin, je sais pas. Il y a un côté. C'est vrai que le cinéma, on va faire tout un blabla, Jean-Luc, on a fait des tonnes autour du cinéma, c'est le monde, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un microcosme où tu en retrouves tous les esclavagismes.
Je serais curieux de savoir un tout petit peu comment vous travaillez, parce que là on a énormément parlé de la production, de l'enregistrement du film, du tournage, quoi. Mais après vous faites aussi, je ne sais pas sur quel projet, mais du montage, du mixage, de l'étalonnage, vous avez entendu dire tout à l'heure. À toute la post-prod en fait, ouais. Et qui implique plein de choses aussi en termes de choix, en termes d'expérimentation. Peut-être vous pouvez nous en parler un tout petit peu. Enfin, comment vous.
Bah, c'est presque primordial. Hein, le tournage, c'est juste d'aller faire ses courses. C'est d'aller au marché, quoi. D'ailleurs, le tournage qui s'arrête à une période qu'on délimitait, c'est aussi des fois un peu rébarbatif. Quoi. C'est bien de mélanger l'ensemble, je trouve. Enfin, aujourd'hui, on peut. C'est ça qui est génial quand même dans le numérique, c'est que si on ne le suit pas comme étant une dictature, comme que le numérique essaye de nous imposer, mais c'est Jean-Luc qui le dit, je le dis à petit coup. Mais c'est vrai, quoi. On est un peu. Si on le prend par le défaut et Jean-Luc dit, on le prend par en dessous et qu'on lui dit non, le numérique, j'en fais ce que je veux moi et je ne me laisse pas influencer par ça, c'est génial, parce qu'on peut faire on est libre de reprendre une caméra, de faire quatre images seul et ça va très bien aller dans le film, on va pas se dire je sais pas quoi, donc ça c'était pas mal. Donc oui, le montage, l'étalonnage, mixage, pour moi c'est un seul et même truc.